Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure tous les soirs, et ce soir, rencontre avec la romancière Hélène Zimmer.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es
ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Romain de Bec de Lièvre,
ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
C'est en 1989, la naissance d'une femme, entre deux montagnes. À côté de la mer, une chienne hurle, qui se prépare aussi à mettre bas. La mer n'est pas tout à fait silencieuse. Elle grince, poussant de toutes ses forces ses organes vers le sol, accroupie. La chair cède, fine. Du sang coule sur la terre battue, la mer expulse une tête aux cheveux ternes et hirsutes, elle reprend son souffle, la tête rentre. La mer pousse un cri enragé, sourd, ses paupières gonflent, la tête surgit de nouveau, avec les épaules. La mer attrape ce début de corps et le tire hors d'elle. Le bébé plonge les yeux ouverts, silencieux, dans ceux de sa mère. C'est sur une naissance, celle de Zulma, que s'ouvre votre roman Hélène Zimmer, une naissance à la fin du 19e siècle et le début d'une trajectoire. La trajectoire plus que le destin d'un corps, d'un personnage que le lecteur suit dans les débuts du 20e siècle. Bonsoir Hélène Zimmer.
Bonsoir.
Véron, c'est le titre de votre dernier roman. Il est publié aux éditions POL. Bienvenue.
Merci.
Est-ce que ça vous semblait évident d'ouvrir ce roman par le récit de cette naissance-là de votre personnage ?
Ça me semblait rien du tout. Enfin, c'est venu comme ça, en fait. C'est autant le récit. Ce personnage, Zulma, m'est apparu avant de commencer à l'écrire. Et le contexte aussi. Mais quand je me suis mis vraiment à l'écrire sous la forme romanesque, c'est cette scène qui m'est venue. Donc sa naissance à elle, j'imagine que, enfin, juste très, très simplement, c'est l'entrée dans la vie, quoi, de ce personnage. Donc c'est ce qui m'a permis de commencer à entamer l'écriture.
C'est une double naissance, puisque d'un côté, il y a donc la mère qui accouche, et il y a une chienne qui accouche à côté. Que penser de ce parallèle-là ?
Je sais pas, il y a plusieurs parallèles dans le livre. De la même manière que le fils, le premier enfant que va mettre au monde Zulma s'appelle Victor, comme l'homme qu'elle croise, auquel elle va s'accrocher pour son entrée dans Paris à elle lorsqu'elle quitte sa montagne et son destin de servante. Là aussi, il y a comme un, je sais pas, un écho ou un doublon. Je ne sais pas quoi en penser, mais ça existe.
Vous dites que vous avez commencé par imaginer ce personnage. Comment elle est apparue ?
Je ne vais pas répondre « je ne sais pas » à chacune des questions, mais en réalité, je ne sais pas. Quoi. Elle est apparue. En vrai, je sais très bien comment elle est apparue. J'étais
Donc vous savez.
J'étais isolée dans une maison, dans un hameau perdu au fin fond d'une montagne à la frontière de l'Espagne. Et j'avais froid, J'ai commencé à boire une petite bouteille de rouge et puis Zulma est apparue. Et pourtant normalement, je considère pas l'alcool comme un vecteur d'écriture ou de mise en forme d'idées, pas du tout. Et tout le reste est venu sans l'alcool. Et d'ailleurs, elle m'est apparue. C'est pas à ce moment-là que je l'ai écrit. Ce personnage, enfin cette femme. Mais je crois que c'est assez mystérieux l'apparition d'un personnage qu'on a envie de. Enfin, c'est quelque chose à élucider de soi qui n'est pas très conscient.
Au début du roman, elle apparaît comme ayant pas vraiment d'histoire et pas vraiment de passé. On lui demande avec qui t'es, elle dit avec personne. Quand elle arrive à Paris, elle dit « je vais nulle part ». C'était important aussi d'avoir quelqu'un dont on sait finalement très peu de choses du passé.
C'était important pour moi, dans la mesure où l'écriture de ce roman est vraiment va contre la psychologie. C'était très important pour moi de pas qu'elle n'ait pas de passé, que j'essaye pas de Voilà, je viens de parler de mystère à élucider, mais le mystère, il n'est pas de l'ordre de l'identité. Je crois qu'il est ailleurs. Il est dans sa vie, comment elle se meut dans l'espace, comment elle reçoit la lumière, les sons, les gens, enfin, vraiment de l'ordre de l'impression. Et pour moi, c'était important qu'elle soit ce corps à ce moment-là de sa vie, avec elle, ce qu'elle avait à résoudre à ce moment-là, c'est-à-dire échapper au déterminisme social et à son destin, voilà, ad vitam de servante et de fille-mère. Voilà, elle échappe à ça et j'avais très envie de la prendre à ce moment-là, où elle construit quelque chose d'autre.
Qu'est-ce qu'il y a de dangereux, d'après vous, dans la psychologie ? Dans le fait de...
L'interprétation. Le fait de plaquer, enfin, de penser à la place des autres, en fait. Et même de penser à la place de soi. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais éviter à tout prix. Qu'elle puisse exister de fait sans essayer d'imposer quelque chose d'elle-même, sans tordre le fond d'elle-même, et sans que moi, je torde le personnage et ce qu'il a à éprouver.
Les murs de la chambre sont tendus de cretonne rose vif. Le même rose que celui de la couverture en soie sur laquelle Victor est étendu. Il agite bras et jambes en l'air. La lumière électrique, très blanche, aplatit son visage. Zulma remplit un pichet écaillé, elle ferme le robinet, attrape une serviette, déshabille Victor, l'allonge nu sur la serviette, décolle les grumeaux séchés sur ses fesses, lui remet un linge, taché mais sec, pend le linge humide à un crochet, déplace un pot de chambre dessous pour en recueillir les gouttes. Victor mange l'un de ses poings. Zulma appuie sur l'interrupteur. La lumière s'éteint. Elle rappuie dessus. La lumière revient. Victor rit. Elle appuie encore. S'allonge à côté de lui. Lui donne son sein droit. Il s'endorme. Sa main glisse sur la rampe. Ses pieds nus s'enfoncent dans le tapis moelleux qui recouvre les marches. Une forme gît sur la dernière marche, à demi étalée sur le carrelage du vestibule. Zulma ralentit. Le visage de l'anguille traîne dans une flaque de vomi. Son buste se gonfle et se vide, tranquillement. Zulma l'enjambe. Elle suit le salon du couloir. Des sanglots émanent du salon. Fais-moi croire qu'il n'est pas vain d'exister. Zulma passe la tête entre les battants grands ouverts. Une seule bougie brûle sur le chandelier. Derrière, sur le divan, le visage de Clotilde entre les mains de Pierre est mouillé de larmes. Ses lèvres tremblent. Sa robe bouffe autour d'elle. Elle écarte ses cuisses nues. Laisse partir sa tête en arrière. Zulma recule. Un jambon à la main, elle appuie sur l'interrupteur du cellier. Inlassable. Déchiquetant la chair salée, elle sursaute. S'arrête de mâcher. Du jus coule sur sa robe. Elle éteint la lumière. Une main cogne toujours au carreau. C'est moi.
Hélène Zimmer, on écoute la lecture par Anna Baron d'un extrait de Véron, votre roman. On voit ce personnage, Zulma, circuler dans une maison. Et on entend ce dispositif assez particulier dans votre écriture, qui est qu'on a une succession d'actions assez courtes et qui s'enchaînent comme ça tout le temps. Comment ce dispositif-là d'écriture est apparu ?
Je ne sais
ça
pas.
Ça s'est fait comme ça.
Non, bah, c'est compliqué de savoir comment les choses apparaissent. Je pense que c'est un peu illusoire de savoir exactement ce qui nous pousse à faire des choses et des actions, justement. Mais du coup, ça m'intéresse de les mettre en place, ces actions. C'est pas un exercice que j'ai suivi, ça vient comme ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai envie de décrire ce personnage, son univers, etc. Après, ce qui me plaît dans ce travail-là et dans cette démarche, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait d'aller contre la psychologie, c'est que, en fait, je trouve que ça laisse une liberté au lecteur, justement, d'interpréter comme il a envie ce qu'il voit. Je sélectionne. Enfin, Zulma se déplace, elle perçoit des choses. Moi, je retranscris des bribes de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle fait. Mais pour moi, à chaque fois, il y a un montage. Il y a plein de choses qu'elle ne fait pas, qu'elle pourrait faire, qu'elle ne fait pas, etc. Et la façon, ce qu'elle reçoit, pour moi, ça dit quelque chose d'elle et de ce qui se met en... De tout ce qui s'installe en elle, de tout, voilà, de sa construction, de la construction de sa pensée et de ses émotions. Mais ensuite, moi, j'en ai une certaine idée, mais le lecteur, avec ce qu'il est, peut s'en faire une toute autre. Et pour moi, ça permet de pas donner toutes les clés au lecteur et de le laisser regarder le monde comme il le fait quand il ne lit pas un livre. Enfin, voilà.
Vous l'avez perçu comme une succession de scènes, ce roman-là? Il fallait pour vous, vous parliez de montage, comme une succession d'actions, de mouvements dans lequel il fallait couper et sélectionner.
En fait, je coupe et je sélectionne sans l'écrire. Enfin, c'est dans ma tête. Mais c'est très linéaire, en fait, quand j'écris. Et pour moi, c'est, oui, une succession d'actions, mais pas une succession de scènes. Enfin, toutes les scènes, pour moi, se suivent de façon assez fluide.
L'effet particulier que ça a à la lecture, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être totalement immergé avec elle. C'est-à-dire qu'elle quitte rarement la scène du roman, là, cette fois, dans ce sens-là. On est toujours avec elle, dans ses mouvements, dans ses actions, mais il y a un endroit où on n'est jamais, c'est dans sa conscience, dans sa tête. Mmh. Il fallait la garder aussi comme ça, Zulma, de garder sur elle un point de vue qui soit toujours extérieur.
En fait, pour moi, c'est une façon d'être avec elle, intérieure. C'est une façon de vivre les choses avec elle. Quand on aime quelqu'un très fort, ou même les personnes qu'on côtoie, voilà, au plus près, on vit les choses avec eux sans jamais être dans leur vérité profonde. C'est un peu comme ça que j'ai conçu le personnage. Donc, j'accède quand même à une intériorité, mais pas totale, parce que c'est, pour moi, c'est pas possible de...
Ça reste mystérieux.
Ouais. Il n'y a pas de toute puissance du narrateur, de la narratrice. On ne sait pas quel genre a le narrateur de ce livre, mais...
Il n'y a pas de point de vue qu'on appelle omniscient.
Omniscient, ouais. Ouais.
Ce qu'on voit aussi, c'est que Zulma, au début, elle parle assez peu. Et progressivement, au fur et à mesure du roman, elle va accéder de plus en plus à une forme de parole. Enfin, elle va parler de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez prêté attention aussi?
Qu'elle parle peu, oui. Mais j'ai pas l'impression qu'elle parle de plus en plus.
Dans les discussions politiques, notamment, on a l'impression qu'elle prend de plus en plus la parole.
Ouais. Je le sens pas comme ça. Mais pour moi, c'est des interventions, c'est plutôt rythmé, enfin assez espacé. En tout cas, à mon sens, mais encore une fois, la liberté du lecteur. Mais à mon sens, elle est quand même très mutique. Et oui, ça fait partie. Enfin, c'est un trait caractéristique de son personnage qui est fondamental.
Une de ses caractéristiques aussi, c'est que elle a un enfant. Et ce, dès le début du roman, et qui est toujours avec elle, soit dans son écharpe, derrière elle, sur son dos, dans ses bras. Et je me suis demandé à un moment si le lecteur n'était pas justement embarqué avec elle et collé à elle de la même manière que l'enfant était collé à elle tout le temps. S'il n'y avait pas quelque chose qui se jouait là comme ça.
Peut-être, mais c'est pas voulu de ma part en tout cas. Pour moi, c'est vraiment... Je pense encore cette idée de partager des moments très intenses de l'existence avec quelqu'un sans faire partie de lui, mais en étant comme greffé à des moments d'intensité grande comme ça, des moments où quelque chose de très important se joue dans la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont là, qui traversent ces moments avec nous, mais pour eux l'impact est complètement différent. Voilà. Et cet enfant, comment je l'ai... la voie que je lui ai ouverte à la fin, c'est vraiment lui. Enfin, il n'est pas affecté comme Zulma de toute cette traversée dans le milieu anarchiste, de tout cet éloignement du milieu d'origine. Il est plutôt curieux, observateur, et, enfin comme beaucoup d'enfants, à aller vers ce qui se présente à lui sans s'embarrasser du passé.
Je vous propose qu'on écoute une archive sur Émile Zola.
Ce qui l'intéresse, ce sont les comportement des gens. Ce sont les personnages, ce n'est pas une psychologie, c'est le corps, c'est la façon dont nous sommes d'abord corps, dont nous sommes d'abord dans un milieu, impressions, nos impressions, les odeurs, les bruits, les couleurs, enfin la façon dont nous réagissons. Ce qui l'intéresse aussi, c'est le travail de la chair, tout ce qui se passe sous la peau, et l'homme totalement incapable d'un quelconque arrêt de ce qui se passe sous la peau. Il y a des exemples extraordinaires. On prend la première page, la première scène de Nana, qui me semble un des romans assez extraordinaires, et il peint là, dans cette première scène, toute la façon dont le désir se lit dans les figures et les corps des hommes qui sont là et qui voient le corps de Nana, qu'ils désirent tous. Voilà. Cette écriture du désir, les instincts, les pulsions, voilà ce qui l'intéresse essentiellement.
Hélène Zimmer, on écoute la voix de Colette Becker, une archive de France Culture en 1999, qui parle de Zola et du naturalisme. Est-ce que Zola, c'est quelqu'un qui a eu une importance pour vous, et notamment dans l'écriture de ce livre-là?
Oui, une grande importance. Et je trouve ça extrêmement bien dit par Colette Becker. Tout ce qui a été dit sur le naturalisme, voilà, d'autant plus que dans sa définition première, le naturalisme porte quelque chose d'objectif, une volonté d'objectivité.
De décrire la société,
voilà,
par le menu.
Sur le monde, sur l'organisation sociale et tout. Et ce que je trouve très très fort avec Zola, c'est que oui, il y a ça. Et en plus et surtout, il y a toute cette chair et toute cette humanité, voilà, mais qui est encadrée par quelque chose qui se lit, je trouve, très facilement par le lecteur d'aujourd'hui, parce que en termes d'organisation sociale, je trouve que les choses ont peu évolué. Du coup, oui, c'était pour moi une référence très un auteur qui me parle de façon très immédiate et directe, et que je comprends, et qui me parle par les sens, quoi. Je trouve que Zola, dans son écriture, il y a vraiment des accès vers le sublime assez, partout, dans plein de scènes, récurrents et hyper forts, je trouve. Et très rythmés, hyper vivants, enfin, c'est une littérature que je trouve extrêmement, extrêmement riche.
Elle parle aussi du travail incessant de la chair. Et j'ai l'impression que dans Véron, enfin, c'est une assez belle définition de ce qui se passe aussi dans Véron. C'est-à-dire l'idée que les corps, le travail des corps, la circulation des fluides, qu'on entendait aussi dans la lecture d'Anna tout à l'heure, est quelque chose qui ne s'arrête jamais.
Mmh. Ouais. Ouais, c'est vrai que le livre Véron est construit comme ça, sur les contacts charnels et sur ce qui s'écoule du corps, sur comment est-ce qu'on lâche de soi, quoi, et sur ce qui se rencontre entre les uns et les autres.
Et qui serait plus important que la psychologie?
Plus important, j'en sais rien, qui m'intéresse plus là aujourd'hui. En fait, je pense aussi dans le fait d'éviter la psychologie, derrière, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de réussir à faire apparaître une subjectivité sans utiliser la première personne. Comment, je trouve ça important aujourd'hui c'est quelque chose que notre génération rencontre beaucoup, le retour au collectif et être à plusieurs, mais avec ce qu'on est, et en plus avec tout le XXe siècle qui nous a ouvert la porte vers deviens qui tu es, enfin voilà, ce truc-là, je trouve que c'est assez intéressant de réfléchir à comment on peut laisser apparaître qui on est, sans prendre toute la place, sans imposer sa vision du monde. Dans la psychologie, c'est quand même vraiment une question d'interprétation, je trouve.
Ou de schéma préconçu, en tout cas.
Ouais, ouais.
Dans l'introduction, ouais, je disais que Zulma, elle a plus une trajectoire qu'un destin. Enfin, que je l'ai plus lu comme quelqu'un qui, ouais, vraiment est propulsé dans le monde, circule d'un espace à l'autre, monte à Paris, suit des gens, et que, la notion de destin, l'idée qu'il y a des choses qui peuvent être prédestinées ou qui lui arrivent, enfin, c'est une surprise permanente.
Elle rompt avec son destin et elle en construit pas un autre, en fait. Donc forcément, tout ce qui advient, c'est que du, enfin, c'est que de l'immédiat et quelque chose à vivre, à éprouver. Et à chaque fois, quelque chose revient derrière et il faut, enfin, apparaît ensuite et il y a une nouvelle chose à expérimenter. C'est comme ça, une accumulation d'expériences plus qu'une. Elle veut pas se reconstruire de ligne, je crois. Enfin, je crois qu'elle juste, elle en a pas les moyens ou les capacités.
Son destin, ce serait le destin de toute femme née dans les Pyrénées à la fin du 19e siècle et qui serait condamnée à la maison.
Okay, c'était ça la question initiale.
Non, ça me vient comme ça.
Son premier destin. Bah non, mais ce serait surtout. Donc Zulma, elle est fille de ferme. Je sais pas exactement comment elle a vécu. Pour moi, elle est dans cette ferme avec sa mère. Elle a accouché dans cette ferme. On sait pas qui est le père de son enfant. C'est sûrement une ferme qui emploie sa mère et elle depuis très longtemps. Elle est, on la voit quand même réduite quasiment au rang d'esclaves, où elles sont exploitées et sous-payées. Et ça laisse une fille mère qui naît comme ça, enfin qui vit comme ça depuis qu'elle est enfant. Elle a peu d'autres issues que rester, enfin mourir dans cette ferme et servir le même maître toute sa vie. Donc elle a cette espèce de force qui lui fait rompre ce destin-là, cette écriture-là de sa vie à elle. Mais ensuite, elle a pas les moyens d'écrire autre chose pour l'instant. Mais par contre, elle suit le mouvement et elle rencontre des gens. En gros, ce groupuscule anarchiste qui l'accueille par l'intermédiaire de Victor, dont elle tombe. Enfin, en tout cas.
De qui elle se rapproche.
De qui elle se rapproche fort. Voilà, l'accueil sans lui demander qui elle est, pourquoi. Et c'est vraiment un endroit qui est ouvert à tous ceux qui ont besoin ou envie d'être là et de partager à manger avec d'autres gens. Voilà.
Ce que votre roman partage avec le naturalisme, c'est aussi une toile de fond, c'est-à-dire une époque, la fin du 19e et le début du 20e siècle, donc on est quand même un peu après Zola, on est en 1909, dans la majeure partie du livre. Et qu'est-ce que ça avait d'intéressant pour vous d'investir ce décor-là?
Je le trouve très similaire à celui d'aujourd'hui, mais peut-être que je suis aveugle. En tout cas, pour moi, il est très similaire.
En quoi?
Dans les inégalités sociales, dans le fait de questionner ces inégalités sociales, d'avoir envie d'être dans une quête quand même d'égalité sociale qui n'a pas encore eu lieu et qui se construit encore aujourd'hui avec le même vocabulaire en fait. Enfin, c'est ça qui est assez fou. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment des idées et un vocabulaire d'il y a 100 ans pouvaient, à mon sens, résonner de façon très neuve. Aujourd'hui, je trouve ça étonnant. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de questionner. Et ensuite, c'était quand même un temps sans la technologie. Et pour moi, du coup, évider tout un monde de la technologie, c'est pouvoir privilégier les fluides dont on parlait tout à l'heure. Enfin, la chair, le contact direct, les regards. Parce qu'il est quand même question de regard beaucoup dans le livre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est filé du titre à la fin, en fait. Et voilà, sans écran entre les gens, c'est ça qui m'intéressait aussi.
Comme un exercice. Si on enlevait toute la technologie du monde, qu'est-ce qui se passerait?
Non, c'est pas comme... Enfin, pardon, c'est pas... Non, parce que j'écris pas comme un exercice, je me mets pas... Voilà, là, j'en parle, j'essaie, parce que j'essaie justement de communiquer quand même. Mais en vrai, c'est très instinctif, tout ça. Ça se fait un peu... Et justement, par exemple, quand j'écris, j'aime pas du tout parler de ce que j'écris à personne, en fait. Pour moi, ça brise quelque chose. L'écriture relève vraiment du fantasme, et notamment les personnages qui apparaissent comme ça. Je peux pas dire qu'on choisit ou qu'ils nous choisissent, mais qui sont là et qui doivent exister. C'est vraiment de l'ordre du fantasme. Et dire ce qu'on a envie de faire, c'est déjà mettre des mots qui ne seront jamais les mots du livre, et du coup c'est mettre quelque chose de très rationnel et qui, du coup, je trouve, tue complètement le désir de le faire. Donc pendant le temps de l'écriture, il y a pas d'exercice, je me laisse vraiment traverser par quelque chose. Et comme j'aime vraiment beaucoup le naturalisme et le roman du 19e, c'est quand même des mots qui m'habitent un peu en quelque sorte, enfin en tout cas qui voilà, une littérature dont je suis imprégnée et je travaille quand même avec, en, en, en référence, enfin avec des modèles et des cadres, voilà, dans lesquels je me faufile.
Quand vous écrivez et que du coup vous parlez pas de ce que vous écrivez, quand est-ce que vous savez que par exemple telle scène, tel passage, tel chapitre tient?
Je ne sais
c'est
pas.
C'est mystérieux.
Non, enfin si je le sais, mais je pas pareil, c'est comme ça, c'est quelque chose qui... Ben, je pense que voilà, c'est quelque chose que, de la même manière qu'on sait pas trop pourquoi. Enfin, il y a un truc où c'est quelque chose qui se solidifie à l'intérieur. On sait qu'on est dans le juste. Et aussi, il y a quand même une idée. Enfin, un roman, c'est quand même une progression. Enfin, une narration, c'est une progression. Donc, je pense qu'on a quand même soit une prescience, soit on sait à peu près quel rythme on veut donner et quelle évolution. Et dès que une scène a rempli son truc, et ben y a une autre étape qui se met en place direct. Le cerveau, je pense qu'il doit y avoir un nouveau vide à combler ou une nouvelle ouverture et on y va. Peut-être.
Est-ce que vous avez pensé ce roman aussi, Hélène Zimmer, comme un roman à intrigue?
Ouais.
Qu'est-ce que ça a de particulier d'avoir à imaginer une intrigue?
C'est un peu flippant.
Pourquoi?
Non, mais parce que pour le coup, comme quand même on l'invente et que ça vient de soi, c'est très difficile de se laisser piéger. Donc là, je trouve ça plus délicat. Autant la tenue d'une scène en termes de rythme et de ce qui se joue pour les personnages, je trouve que c'est quelque chose qui se sent comme ça, voilà, sans trop y réfléchir. Mais la tenue d'une intrigue, c'est beaucoup plus délicat. Je n'en dirai pas plus, je ne sais pas. C'est pas à moi d'en juger. Mais après, en tout cas, on sait pareil ce qu'on a élucidé, enfin ce qu'on veut faire surgir de cette intrigue, les échos. Vu que là c'est un roman historique, je savais quels échos je voulais faire résonner de notre époque. Et quoi qu'il en soit, l'intrigue générale du livre. Il y a un parallélisme, si on veut reparler, avec l'intrigue du personnage, enfin avec ce que là l'héroïne dans ce livre a à résoudre.
Ce n'est pas une bombe incendiaire, c'est une bombe explosive. Alors pourquoi le feu a-t-il pris, demande-t-on au pompier? C'est l'éclairage au gaz de la ville. Le souffle de l'explosion a été la cause de l'incendie, mais le gaz a flambé de partout. Le café est entièrement calciné. Dans son dossier de police, le président Sadi Carnot peut voir un dessin représentant le café du théâtre à Lyon. Il n'en reste que les murs. La police lyonnaise a fait une enquête minutieuse et s'est immédiatement orientée vers les milieux qu'elle a déjà fichés. Des garçons et des filles qui portent des foulards rouges et des casquettes pour terroriser le bourgeois. Ils ont constitué, on le sait, des sociétés secrètes. L'une d'elles s'appelle les hors-la-loi, les outlaws. Une autre, la jeunesse anarchique. Et encore une autre, les indignés. Ces anarchistes publient des journaux qu'ils écrivent et qu'ils impriment eux-mêmes. On les distribue, leurs journaux, sous le manteau. Quel titre? Eh bien, le droit social, par exemple. Ou encore, l'étendard révolutionnaire. Leur idéologie vient en droite ligne de la Commune de Lyon, parce qu'on parle toujours de la Commune de Paris. Il y a eu aussi une commune à Lyon en 1870, avec notamment l'anarchiste russe Bakounine, qui avait pris le pouvoir avec les anarchistes du Jura. Cette presse anarchiste est extrêmement violente. Les journaux publient de vrais appels au meurtre. En étudiant de près les colonnes pleines de cris, d'invectives et de hurlements de révolte, les enquêteurs de la police lyonnaise découvrent un passage curieux. On y parle en effet, longtemps avant l'explosion, de ce café du théâtre Bellecour. La police arrête alors immédiatement tout ce qui lui tombe sous la main, et naturellement pas les coupables. On découvrira plus tard que les vrais coupables n'ont pas été arrêtés. Ils sont en fuite. Ils ont sans doute gagné l'étranger, comme s'il existait une organisation internationale du terrorisme.
Hélène Zimmer, on écoute une archive de France Inter en 1990. C'est Pierre Miquel qui raconte un attentat qui a eu lieu à Lyon, place Bellecour, en 1882, en pleine période où en France les attentats anarchistes sévissaient. Pourquoi avoir investi le milieu anarchiste? Qu'est-ce qui vous intéressait?
Idéologiquement, le milieu anarchiste m'intéresse. Ensuite, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est le seul endroit qui pouvait accueillir ce personnage. Il y a un côté famille délaissée pour compte qui me plaît. dans l'anarchisme. Pas seulement, mais ça existe. Et comme dans le livre, il est question d'une femme qui tourne le dos au déterminisme social sans avoir les outils politiques pour construire autre chose, ça m'intéressait de la faire baigner comme ça dans un univers.
Que sa trajectoire
univers,
croise celle des anarchistes.
Ouais. Et de voir comment, et de voir que eux, leur but n'est pas d'en faire, c'est pas leur petite poupée qui va, c'est le groupe que je décris, c'est vraiment des personnes qui bloquent comme ça, qui comme Zulma tournent le dos à quelque chose qui vont bloquer des usines en grève, qui viennent pour moi mettre le point sur des systèmes grippés. Mais sans dérouler tout un protocole à suivre pour accéder à une espèce d'émancipation sociale ou politique. Et donc lier intimement Zulma et ces personnages-là, c'était une manière de faire vivre ça.
Ce qu'ils ont de particulier, ce groupe qui s'appelle donc ni les foulards rouges, ni les indignés, mais les presque rien, dans votre roman, c'est qu'ils s'opposent assez radicalement au syndicalisme. Il y a un certain nombre de personnages qui tiennent des discours disant les syndicats ne servent à rien, donc on va aller empêcher les syndicats de faire la grève parce que c'est quelque chose contre laquelle ils sont contre. Et ça aussi, c'est un des échos avec l'actualité contemporaine, le refus de l'organisation syndicale, qui est assez frappant. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez à l'esprit en l'écrivant?
Que c'est une nécessité aujourd'hui, puisque ça existe. C'est quelque chose que je ressentais, on pouvait le ressentir. Après, je l'ai écrit avant les Gilets jaunes, mais je pense que c'est juste... J'ai l'impression que les Gilets jaunes, ce qui en ressort, c'est que les gens ont envie, chacun, d'exprimer quelque chose et d'être entendu sur ses propres injustices, plutôt que d'essayer de formaliser un discours. L'injustice sociale marque les corps, en fait. Et du coup, libérer une parole personnelle de ce que c'est l'injustice sociale, autrement qu'un discours politique qu'on a entendu du coup depuis 150 ans et qui n'a pas mené à la fin des inégalités sociales, c'est voir la meurtrissure et voir la blessure, voir le fait qu'on n'est pas reconnu comme un individu égal à tous les autres. Et je pense que c'est ça que ça dit, de pas vouloir être représenté, en fait. Personne ne peut dire la blessure de quelqu'un d'autre, enfin, je pense.
Il y a aussi dans Véron, on entend donc ce groupe anarchiste et aussi d'autres gens à la fin du roman qui vivent en communauté, un peu isolés, tenir des propos politiques qui sont, eux, extrêmement articulés. Et ces propos extrêmement articulés voisinent aussi toute cette écriture dont on a parlé, celle des fluides, des corps. Et je me suis demandé s'il y avait opposition entre les deux, et en fait je me suis dit pas tant que ça. Comment vous avez géré ce voisinage entre d'un côté des propos théoriques voire intellectuels extrêmement affirmés et cette écriture du corps?
Mais pour moi, ces propos, ils offrent un cadre, en fait, un cadre à Zulma et à ce petit qui entendent comme ça ces mots, qui mettent des mots sur peut-être ce qu'ils vivent ou pas du tout. Après, je les ai... Pour moi, c'était quand même un endroit où je me permettais une certaine forme de poésie. Et pas, enfin, pour moi, c'est pas de la logique. C'est vraiment récupérer un langage qu'on connaît, qui a été bien... je sais pas, répandu, et essayer de le, je sais, enfin voilà, de recomposer quelque chose avec, peut-être en le mettant peut-être en y faisant résonner justement les corps et ce qui se passe autour. C'est pour moi le mettre comme ça avec tous ces corps, c'est aussi faire résonner la vie à l'intérieur du discours, en fait.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids. Je suis piscine de par une piscine totale sur mes côtes d'azur, c'est chaud, les âmes faibles, ma salive sans le chlore, mon lit décontamine, on s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes, je suis piscine de sang.
France Culture, par les temps qui courent, Romain de Becdelièvre, avec Hélène Zimmer.
Avez-vous accès à des moyens de contraception ? Avez-vous déjà utilisé la poire ? Zulma secoue la tête. Je vais vous donner une recette, très simple, à base de sauge et de vinaigre. Vous remplissez une poire entière, pas plus, et vous aspergez l'utérus. Après la relation. Zulma bouge les lèvres sans rien dire. Combien avez-vous d'enfants ? Que lui. Avez-vous été suivi après votre accouchement ? Non. Ressentez-vous des douleurs ? Zulma hausse les sourcils. Cela ne serait pas anormal, indique Denise. Où avez-vous mal ? Dedans, autour. Pourriez-vous être plus précise ? Zulma hausse les épaules. Et vos règles ? Zulma jette un œil à la fille aux jambes écartées. Toujours absente ? Je les ai re-eues une fois. Vous n'allaitez pas ? Si. Marietta guide la fille voûtée avec son souffle et ses mains. Tâtant cet amas de muscles pétrifiés, cherchant à lui faire faire des roulades arrière. Vous n'êtes plus protégée par l'allaitement. Avez-vous eu des déchirures lors de la poussée ? Zulma hausse les épaules. Seriez-vous situé votre utérus ? Zulma secoue la tête. Je vais vous donner un onguent, qui va aider les chairs à se réparer au cas où. C'est inoffensif. Quand vous le souhaiterez, vous viendrez me voir, en dehors des réunions, pour une auscultation. Zulma acquiesce, reconnaissante. Avez-vous déjà avorté ? Pour réponse, Denise se contente du regard de Zulma. Retrouvez les autres. Cherchez l'utérus.
Hélène Zimmer, on écoute un deuxième extrait, une lecture par Anna Baron de votre roman Véron, où c'est une scène où Clotilde, qui fait partie du groupe anarchiste, accompagne Zulma auprès de Denise, où elle retrouve un certain nombre de femmes, qui trouve chez Denise un certain nombre de soins thérapeutiques apportés aux femmes après l'accouchement notamment. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez trouvé une trace historiquement ou est-ce que c'est totalement inventé ?
C'est quelque chose dont je suis sûre qu'il y a une trace mais que je n'ai pas trouvé.
Pas mal.
Ouais. Bah, je me suis inspirée de ce qui existe, ce qui revient énormément aujourd'hui, toutes ces réunions de femmes d'auto-observation, voilà, gynécologique, qui existait, enfin, qui était très répandue dans les années 70. Et dont, moi, j'ai pas trouvé, voilà, de traces au début du 20e, mais je vois pas pourquoi ça n'aurait pas existé, en fait. C'est le savoir physiologique, des femmes sur leur propre corps. A priori, voilà, c'est quelque chose d'ancestral qui a connu un gros blocage avec la chasse aux sorcières. Mais en réalité, je pense que c'est quelque chose qui est partagé entre femmes de génération en génération.
Sorcière, c'est un mot qui revient plusieurs fois dans Véron.
Alors,
Zulma est traitée de sorcière
au départ et Et ensuite,
je pense que quand elle est au théâtre, elle est comédienne et un des membres du théâtre l'appelle sorcière. Est-ce que c'est un mot qui est important
pour le parcours de Zulma aujourd'hui?
C'est un mot qui est connoté en tout cas et qui a été connoté négativement. Alors que ce qui est en jeu et ce qu'on entend dans cette scène-là, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir qui est transmis par les femmes entre elles.
Ouais. Et dans le roman, le mot sorcière, il est prononcé par des hommes à chaque fois comme une insulte. Donc, il garde vraiment la trace de ce qu'on en a fait et de là de l'injure qui est aujourd'hui réparée par toutes ces femmes qui en refont, je sais pas moi, un mot vraiment qui évoque, je trouve, pour des jeunes femmes dont je me sens faire partie, de l'espoir en fait, enfin une notion de force et de puissance qui passe par la connaissance de soi, par la transmission entre femmes, par la solidarité féminine, par tout ce je sais pas, une espèce de féminin immémoriel que voilà, je trouve que ça aujourd'hui c'est l'endroit de la puissance féminine, enfin il a c'est comme ça qu'il est représenté, qu'on se comprend toutes grâce à ce mot-là. Après quand j'ai écrit Véron, je sais pas, je l'ai pas imaginé comme la trajectoire d'une personne qui était mise au banc et qui je l'ai pas chargé de ce destin-là, quoi. Il n'y a pas de vengeance, en fait, je crois, chez Zulma. Et quand même, pour moi, sorcière évoque un renversement, enfin un retour à un recouvrement de la puissance féminine qui est vraiment à asseoir. Et Zulma, c'est pas ça. Mais par contre, elle côtoie Clotilde, qui est un personnage qui est très... qui s'en sort très bien, qui est très maîtresse des situations, des relations sociales et d'elle-même, et qui l'initie à ce savoir féminin, mais on n'est pas, c'est peut-être une sorcière, mais peut-être.
C'est important pour vous, en tout cas, de représenter quelque chose qui est de l'ordre de décrire des femmes qui sont entre elles.
Oui, c'est important parce que entre femmes, il y a des souvenirs, des choses qui émergent, qui peuvent pas émerger dans des contextes mixtes, malheureusement, suite à l'histoire du patriarcat, en fait, qui a empêché beaucoup de choses et qui quand même gouverne vraiment nos réactions, nos fantasmes, nos façons de nous présenter, et du coup, dans des contextes mixtes, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, sur un sujet de conversation mixte et non mixte, les réponses vont pas du tout être les mêmes, quoi. Donc, je pense que oui, c'est un moyen et pas une fin, mais c'est un moyen pour reconstruire une identité collective, quoi.
Ou même reconstruire, là, en l'occurrence, tout simplement des corps.
Ouais, reconstruire les corps, ce qui est quand même hyper important.
On peut dire, ce qui est peut-être paradoxal, mais vrai, que tout roman est historique. Pour la simple raison que tout roman se passe dans le passé. Et qu'un événement situé, mettons, à un an d'ici ou à six mois d'ici dans le passé, est aussi irrémédiablement perdu, aussi difficile à récupérer, que s'il se passait il y a des siècles. Je donnerai pour exemple le fait, par exemple, que je me trouvais à Paris en 1968, et que si l'envie me prenait d'écrire un roman sur la révolte étudiante à Paris, je ferai exactement ce que je fais quand j'essaie d'évoquer un événement se plaçant dans la Rome du IIe siècle ou à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire que je relirai les documents de cette année-là, je m'informerai auprès de mes amis pour voir s'ils ont des renseignements qui me manquent, je rouvrirai les recueils dans lesquels sont imprimés les graffitis écrits sur les murs en mai 68. Enfin, je ferai l'impossible pour m'informer de mon mieux, exactement comme je le fais lorsqu'il s'agit d'un événement placé dans le passé. C'est qu'à notre époque, et peut-être à toutes les époques, la politique, c'est-à-dire ce qui est le tissu même de l'histoire, joue un rôle considérable dans nos vies, dans les vies humaines, que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non. Et que par conséquent, même lorsque nous nous retournons vers une aventure tout à fait privée, d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, nous rencontrons un certain nombre d'événements, de faits qui sont déjà historiques et dont nous avons à tenir compte.
Hélène Zimmer, on écoute la voix de Marguerite Yourcenar, une archive de France Culture de 1971, où elle parle du roman historique et elle dit « tout roman est historique ». Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ?
Oui.
Est-ce qu'avec Véron, vous avez eu la sensation, en tout cas, de faire quelque chose qui relève du roman historique ?
Oui, je l'ai eu, cette impression, oui. Ce qu'il en est, oui, c'est ça. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que elle accorde au terme d'histoire un spectre très, très large.
Ce qu'il y a d'intéressant dans Véron, c'est tous les effets d'écho, en tout cas, qu'un certain nombre de scènes peuvent avoir avec les scènes, des scènes contemporaines. La scène que Anna a lue tout à l'heure, avec les femmes entre elles, une scène où on consomme des champignons hallucinogènes et où tout le monde, ça pourrait être une autre substance aujourd'hui, mais on peut y penser. Ça fait de Véron une forme de roman qui peut aussi mobiliser un certain nombre d'anachronismes. Est-ce que c'est quelque chose qui, avec l'anachronisme, avec lequel vous êtes tranquille?
Ouais, très tranquille. Non, mais c'est, de toute façon, on écrit avec ce qu'on est, donc je vais pas me faire croire. D'une part, je vais pas me faire croire que je suis une historienne de 60 ans qui connaît les archives de fond en comble. Et d'autre part, je vais pas me faire croire que je suis une meuf du 19e siècle et du début du 20e. Donc après, ce qui m'intéresse, je me dis que si ça m'intéresse autant. Ce qui m'intéresse de cette histoire, c'est que ça doit être, à certains égards, ça doit intéresser quand même d'autres personnes et que c'est significatif, enfin que ça a une résonance aussi facile en fait, je trouve, avec ce que je vis, c'est que ça existe. Donc je me prive pas de l'explorer. Et ensuite, c'est un roman sur la filiation, qui s'ouvre sur une naissance. C'est une femme qui rompt avec son histoire familiale, enfin avec sa mère, mais qui a donc cet enfant Victor et un autre enfant ensuite. Et puis il y a un gros accouchement final. Enfin, c'est quand même sur la narration se construit sur la transmission. Et à titre individuel, transmission des générations antérieures, c'est quelque chose que je ressens et avec lequel je compose et je vis. Donc, travailler l'historicité dans ce sens-là.
Au sens physique, des générations,
physique,
de la
filiation. De relier, et justement, je trouve que pour la mémoire des femmes, c'est quelque chose. En tout cas, pour faire exister la mémoire des femmes et le fait que cette histoire et que le savoir féminin a été entravé, mais qu'il est là et qu'il s'est transmis et qu'il continue à se transmettre, et ben revenir à quelque chose d'antérieur, c'était une façon de, je trouve, de le mettre en valeur, en fait, de mettre en valeur le lien, l'histoire des femmes, ce qui unit quand même les femmes.
Quand les gens écrivent des romans sur le passé, ou en tout cas qui traitent du passé ou qui se passent dans le passé, on a souvent l'habitude de dire que le passé est important parce qu'il éclaire l'avenir. Et moi, j'ai lu Véron plus comme quelque chose de l'inverse, d'une sorte de contexte de fin 19e, début 20e extrêmement clair, on voit, on y est, mais avec des trouées, et qui ces trouées-là sont des trouées contemporaines.
Ouais.
Voilà.
Je l'aurais lu pareillement. Je suis pas sûre que le roman historique doive éclairer l'avenir. Je suis pas sûre que ce soit sa fonction et que ce soit à cet endroit-là qu'il est le plus, qu'il est reçu de la façon la plus juste ou la plus efficace. En fait, c'est pas se porter tout le temps vers l'avenir. Enfin, il y a un côté, je trouve ça assez triste, en fait. Je trouve que là, dans l'époque dans laquelle on vit, ce que je trouve très... cette obsession de l'avenir, et en plus d'un avenir un peu apocalyptique, inhibe énormément et est vachement déprimant, enfin empêche d'agir. Et il y a quelque chose de très culpabilisant sur ce que peut être l'homme, l'être humain, la femme du XXe siècle, vraiment des personnes absolument horribles qui font... sur l'expansion de l'agriculture et sur les crimes, j'ai l'impression que nous, on doit porter comme ça une culpabilité de l'humain ancien du XXe siècle.
Que
et qu'aujourd'hui, on devrait
mauvaise.
Se reconstruire et qu'on devrait être vraiment des personnes qui accueillent la vie comme ça de la façon la plus sereine et la plus je sais pas quoi, et que tout d'un coup, on devrait tous s'unir et qu'on doit construire un être humain nouveau. Et je trouve ça complètement absurde, enfin, comme idée de l'humanité. C'est hyper schématique, ce que je viens de dire, et ça ne vise rien du tout. Mais c'est comme ça une impression que j'ai et qui, je pense, quand même est contenue dans cette obsession de l'avenir, de éclairer, savoir ce qui va advenir après. Mais en fait,
voilà, en tant que fonction d'écrivain aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup assigné à, aux écrivains, de dire qu'est-ce qui va se passer.
Ouais, et de chercher à tout prix les échos de quelque chose de prédictif, mais c'est et en même temps, enfin voilà, c'est bon, ce que je dis peut être complètement contredit, parce que l'intérêt pour le passé et pour les peuples anciens et pour les civilisations qui sont éteintes est quand même hyper fort, parce qu'on sait très bien qu'on a des choses à y trouver de nous-mêmes et qu'il y a des choses très éclairantes pour enfin des comportements qui permettraient de résoudre quand même plein de choses. Donc, je sais pas, je trouve que dans la focalisation sur l'avenir, il y a une idée comme ça de nettoyage qui me plaît pas trop.
Il y a un des personnages, à un moment, alors je sais plus lequel, qui dit « l'histoire se répète ». Et d'ailleurs, c'est moqué, je crois, un peu. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue dans Véron, de l'ordre de cette histoire au sens physique, au sens de transmission, de génération, d'accouchement. Et quelque chose qui serait de l'ordre du cycle. Enfin, qui nous ouvre à une histoire qui serait plutôt cyclique.
Ouais, bah c'est vrai que c'est comme ça que je conçois l'existence, après. Donc c'est comme ça que j'ai écrit le livre.
Le roman historique, c'est aussi quelque chose d'assez puissant par le contexte, qui est que, par exemple, vous racontez l'assassinat d'un syndicaliste, et j'étais persuadé qu'il avait vraiment existé. Et j'ai tapé sur Google et j'ai
donc
trouvé personne.
C'est que l'intrigue a quand même un peu fonctionné, du coup, par rapport à la question de tout à l'heure. Ouais.
À la toute fin du roman, Hélène Zimmer dans Véron, le personnage de Zulma se retrouve dans une communauté, qui est une communauté dans un endroit qui s'appelle Grand Seigne, et qui n'est pas sans rappeler, là pour le coup dans la série des anachronismes, c'est une communauté qui vit de manière autonome, autogérée, dans un espace qui est une forêt, qui est destinée à être rasée pour construire un circuit automobile. C'est pas sans rappeler des phénomènes comme les ZAD aujourd'hui, les grands projets, ce qu'on a appelé les grands projets inutiles. Est-ce que c'était aussi une des trouées que vous vouliez opérer du contemporain sur le 19e siècle? Sur le début du 20e?
Non, c'était pas volontaire. Enfin, comment dire, j'ai pas voulu opérer des trouées. En réalité, les colonies, enfin, ce qu'ils appelaient les colonies, ces communautés existaient au début du 20e siècle et à la fin du 19e. Et je pense que on élabore aujourd'hui avec une ampleur plus grande ce qui était mis en place il y a 100 ans. Mais c'était plus une. Encore une fois, une inscription dans un, enfin, une lignée de, comme ça, d'attirance ou de nécessité de la vie communautaire.
Il y a le personnage de Clotilde, à un moment, qui dit à Zulma, l'amour est le plus perfectionné des systèmes de survie. Et justement, dans toute cette question de l'autonomie, de où elle se retrouve dans une communauté autonome, je me suis dit qu'à un moment, Zulma, elle apparaissait aussi comme d'une certaine manière une figure autonome, au sens, parce que l'amour est justement le plus perfectionné des systèmes de survie, et que donc elle est avec son enfant, puis son autre enfant, et que ça forme quelque chose qui est de l'ordre d'une cellule. Est-ce que c'est quelque chose que, est-ce que vous l'avez pensé comme ça? Est-ce que pour vous c'est intéressant aussi de raconter cette structure-là?
Ouais. Je pense qu'en tout cas j'avais pas prévu que Zulma ait un deuxième enfant. C'était pas dans le programme. Mais elle l'a eu, elle non plus, évidemment. Et elle faisait tout d'ailleurs pour ne pas en avoir. Et elle l'a eu quand même. Donc, mais comme elle perd quelqu'un, enfin, c'est quand même quelque chose qui se retrouve, pas systématiquement, mais dans la vie, au moment, enfin chez les individus, des gens partent au même moment, d'autres arrivent. Voilà, c'est ça fait partie d'un cycle vital que moi, en tout cas, je vois dans la réalité et que du coup j'ai simplement écrit.
Ouais. Faut prêter attention au cycle.
Ouais. Surtout les cycles des femmes. Non, mais c'est ça pourrait. Non, mais avec des amis, on imagine comment, et je pense qu'il y en a qui existent ou qui ont existé, mais comment pourraient exister des communautés de femmes qui s'organisent que sur les cycles. Et mais je sais plus. Je crois que c'était une autrice qui avait. Enfin, je crois qu'il y avait tout un système qui avait été pensé sur un système économique pensé en fonction de la des cycles des femmes et des hormones en fonction de leur du moment où elles étaient le plus productives et le moins, etc. Bon, c'est une petite blague comme ça pour terminer, mais je pense que vraiment, en fait, on peut se leurrer et se dire que ça n'a pas d'incidence et que ça n'existe pas. Les cycles en général, les moments, en gros, de commencement et de rupture, et les moments de faiblesse et de puissance. Enfin, voilà, on peut se dire qu'on peut être tout le temps comme ça, dans la surpuissance, et en continu vers un nouveau commencement et vers l'avenir. On voit bien que c'est absolument pas possible. Donc, du coup, oui, je crois que c'est une nécessité d'en revenir à une écoute des cycles de chacun, et pas évidemment pas que des femmes.
Merci.
Merci à vous.
Hélène Zimmer. Véron, c'est le titre de votre dernier roman. Il est publié aux éditions POL.
À quoi peut bien nous servir l'économie du plein emploi? Nous sommes trop occupés à faire nos propres choix. L'oisiveté est un luxe.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Claude Nior. Lise-Marie Barré était à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier et Anna Baron qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.
J'ai repris aux choses simples comme caresser ton chat. Quoi peut bien servir l'économie du plein emploi quand un ami vous déçoit? J'essaie de m'ouvrir aux autres, mais ça ne va pas toujours de soi. À quoi peut bien nous servir l'économie du plein emploi? Voir vivre les proches autour de soi, garder du temps pour ceux.